France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Teresa Berganza. Je suis née à Madrid en 16 mars 1933. Et je continue à vivre. Et si vous ne me connaissez pas, je suis chanteuse, on dit d'opéra, mais je suis chanteuse classique.
Nous quittions Teresa Berganza hier sur les souvenirs de sa petite enfance pendant la guerre civile. Quelques années ont passé.
Alors, vous allez aller à l'école à Madrid, j'imagine.
J'allais à l'école, oui. J'ai fait jusqu'au 16 ans. Mais j'allais à l'école et le soir, j'allais au conservatoire. Alors là, j'ai commencé. En plus, j'ai chanté dans un chœur.
Alors ça, c'est quelles années, Teresa Berganza? Parce que vous allez commencer le piano, je crois, sur les genoux de votre papa.
J'ai commencé le piano très, très jeune, quand j'ai commencé avec papa, avec les petites sonates et tout ça. Mais après, je suis allée au conservatoire, j'avais mon professeur de piano. Javier Alfonso s'appelait mon professeur, mais celui-là, c'était déjà les dernières années. Et j'ai étudié le piano, 8 ans de piano. 4 ans d'orgue, 3 ans de musique de chambre, j'étudie tout, hein. Histoire de la musique, 4 ans, et composition. Mais la composition, c'était l'unique fille qui allait à la leçon de composition. J'ai eu le premier prix de solfège, j'ai eu le prix de la musique de chambre, et après, quand je commence à chanter, c'est tout fini.
Vous avez arrêté les instruments à ce moment-là?
J'avais commencé le violoncelle. Et j'ai tout arrêté. Sauf le piano. Parce que j'ai joué le piano pour apprendre mes opéras et mes chansons. C'est moi que j'ai joué le piano pour moi-même. Mais il m'a pris les chants. Et pourtant, je suis allée en croyant que mon professeur allait me dire, écoutez, mais vous n'avez rien à faire en ancien mater. Et pourtant, après 3 mois d'études, il m'a dit, vous allez faire quelque chose dans les champs. Et ça m'a pris une passion pour apprendre tous les airs anciens, tous les... Et voilà, jusqu'à aujourd'hui.
Dans les professeurs que vous avez eus avant d'en arriver, Teresa Berganza, à ses premières leçons de chant avec Lola, dont vous allez nous parler, avant d'en arriver là, vous avez eu d'autres professeurs. Ernesto Halfter?
Non, il n'était pas mon professeur.
C'était pas votre professeur,
Ernesto,
je croyais.
Ernesto Halfter était un compositeur et chef d'orchestre qui aimait beaucoup ma voix quand j'étais très jeune et qu'il était élève de Manuel de Falla. Et quand il m'a entendu, il a dit « c'est la fille que Falla aurait voulu entendre ». Alors on est resté amis, on nous a présenté, je crois que c'était mon professeur, Lola Rodriguez Aragon, parce que moi, l'échange, je l'ai fait seulement avec elle.
Oui, oui, oui.
Elle était tellement formidable, parce que là, dans ces années-là, personne chantait Mahler. Moi, j'ai appris Mahler avec elle. Personne connaissait Wolf en Espagne, je parle en Espagne. Et moi, je chantais Wolf. Moi, j'ai appris à chanter les leads, comme j'ai appris les chansons espagnoles, avec elle. Parce qu'elle était formidable. Elle était élève d'Elisabeth Schumann. Bon, ça veut dire que j'ai eu quelque chose de formidable. Hein? Après, le professeur d'orgue s'appelait Grudy, qui était un compositeur, et je chantais toujours ses chansons. Mais je chantais dans un cœur. J'ai appris dans l'école, c'était moi qui chantais, moi qui dirigeais, moi qui faisais, qui récitais les poésies. Je ne sais pas d'où m'est venu tout ça, de mon père. Et j'étais toujours mis dans cette vie de fantaisie partout. Et c'est mon père, naturellement. Et ma mère qui a été près de lui, qui nous a appris à aimer tout ça, si.
Et qui vous a appris la rigueur, votre mère.
La rigueur, c'est ça. C'est ça.
Dans ces moments...
Elle allait à la messe, maman, tous les dimanches, et mon père ne voulait pas aller. Mais il disait, non, je ne te laisse pas seul parce que tu es trop belle. Et il allait à la messe avec ma maman. Et quand il y avait les curés qui parlaient des choses qu'il n'aimait pas, il faisait comme ça. Alors maman lui disait, ne fais pas ça, Guillermo, parce qu'on te voit. C'était formidable, que famille, formidable, pour faire un film. C'est vrai que j'ai appris un peu l'orgue parce que je voulais entrer dans un couvent. Je voulais être sœur.
Il faut que vous nous racontiez, Teresa Berganza, comment vous avez eu cette crise mystique.
Parce qu'à l'école, en ces temps, la religion était... On nous mettait la religion vraiment tout le temps. Et moi... Je trouvais que c'était formidable, que je suis, que je l'adorais, que je voulais le marier, que je voulais être la femme que plus l'aimait dans la vie. Et je suis, mais il ne pouvait pas avoir une autre fille qui aimait Jésus que comme moi. Et alors, j'étais passionnée et folle de la religion, comme je suis passionnée et folle de toutes les choses que j'aime. Et quand je suis arrivée à 17 ans, je connaissais un couvent de sœurs que c'était des sœurs de clôture, hein? Formidable. Et c'était jeune, mais je sentais très mal. Et comme je les ai connues, on les a appris à chanter. Parce que j'ai appris aussi les chants grégoriens. Et naturellement, je les ai appris à les sœurs. Et je me trouvais entre eux, et je suis partie de ma maison en disant que j'allais avec des amis à passer quelques jours. Et je suis entrée dans le couvent. Et quand mon papa l'a su, comme je n'avais pas encore l'âge, j'étais mineure, il m'a fait sortir. Peut-être qu'il l'avait fait. Mais je chantais là, avec elle. Elle chantait très bien, finalement, parce qu'elle chantait un peu avec elle, comme ça. Et je l'ai appris à chanter. Mais petit à petit, j'ai commencé à penser... Et c'est que, je sais pas que j'ai perdu la foi complètement, mais j'ai perdu beaucoup de ces fois que j'avais, que c'était complètement aveugle. Je ne voyais que ça. Et je ne voulais que ça. Je crois que je suis une personne bien, que je n'ai pas fait du mal. Et je comprends la religion maintenant d'une autre façon. Moi, par exemple, je crois que j'avais déjà dans mon être, je voulais être femme et je voulais défendre les femmes. Et je me disais, et pourquoi la Vierge est Vierge? Pourquoi n'est Vierge Adam, était Vierge Adam? Et bon, je dis, pourquoi Adam? Pourquoi c'était Eva? C'est là qu'on a dit, on peut pas, tu ne peux pas, comment est-ce qu'on dit, aimer Adam. Tu ne peux le provoquer. Et voilà. Et moi, j'ai déjà ça de penser. Après, quand on est plus grand et on parle, je dis, et pourquoi la Vierge doit être Vierge? Si Dieu a créé l'homme et la femme pour s'aimer et pour continuer la vie avec les enfants. Et là, j'ai commencé à avoir mes problèmes de foi. Et je les ai toujours. Je continue à, si je peux parler avec quelqu'un qui peut me parler bien de tout ça, je demande toujours, je cherche des livres, je... Oui, c'est comme ça.
C'est un doute qui est un moteur aussi dans la vie, Teresa Berganza, comme avec l'art. J'imagine que c'est, ça se rejoint d'une certaine façon.
On cherche dans tout. Moi, j'ai cherché beaucoup pour chanter dans la littérature. Et j'ai cherché beaucoup, quand j'étudie le piano, la littérature, pour savoir la vie des compositeurs. Parce que quand je savais quelle vie avait eu Mozart, Bizet, Wagner, Mendelssohn, quand je l'ai appris, je comprenais beaucoup mieux sa musique. Et après, quand j'ai commencé à chanter, naturellement, j'ai regardé la musique, mais j'ai regardé le livret. Parce que de là, il est parti tout. Parce que l'opéra et les mélodies sans paroles ne sont rien.
Avant de vous exprimer par le chant de façon soliste, Teresa Berganza, un mot quand même sur ce chant. Vous le dites, vous avez chanté toujours en étant enfant, en étant petite. Vous avez fait partie de deux chorales. Quel souvenir vous gardez de ce chant ensemble, de ce chant à plusieurs, de cette expérience du cœur?
C'était formidable. J'étais la plus petite. Les autres, j'étais déjà des 25 ans, 30 ans. Ils étaient naturellement comment est-ce qu'on dit, aficionados.
Oui, des passionnés.
Si. Et alors, c'était des gens formidables. Il y avait des professeurs, il y avait des docteurs. Et moi, que s'il y avait à faire un solo, c'était moi qui faisais le solo. Mais après, on était ensemble, on était très amis. Et on allait faire du ski le dimanche. On voyageait pour chanter, gratis naturellement. Mais on voyageait pour une fête, et c'était une vie formidable.
Vous chantiez quoi dans ce chœur? C'était de la musique sacrée, Teresa Berganza?
Non, on chantait tout. On a chanté même la 9e symphonie De Beethoven, si, si. Chantez tout. Tout qu'il y a pour cœur. Quelquefois avec orchestre, quelquefois l'orchestre. On ne l'avait pas et on chantait avec piano. Piano et le cœur. Et moi, j'étais toujours mezzo-soprano. Mais quand ma bonne professeure m'a entendu, m'a dit, tu donnes trop au centre. Il faut te mettre plus aux aigus. Mais je crois que le cœur, c'est une chose très importante pour les musiciens. Les chanteurs ont à faire attention de ne pas forcer. Mais pour les musiciens, comme jouer dans une orchestre de jeunes, au conservatoire, c'est très important déjà. Parce qu'on partage la musique et on entend les autres. Et on dit, je ne peux pas chanter plus fort de ça parce que, oui. Les périodes de chœur étaient formidables.
Entretien de Teresa Berganza, France Musique.
Alors Teresa Berganza, ici, on est dans votre salon à l'Escurial où il y a des photos. Et je crois qu'elle vous regarde, Lola Rodriguez Aragon, non?
Elle me regarde, oui.
Comment est-ce que vous pourriez nous raconter, Teresa Berganza, cette rencontre avec ce professeur qui restera votre unique professeur de chant? Comment déjà vous êtes arriver aussi au chant?
Non,
pourquoi
je n'avais
tout d'un
pensé
coup
jamais apprendre à chanter. Mais le chef, le directeur du chœur, me disait toujours, tu dois apprendre le chant. Et avec une professeure qui s'appelle Lola Rodriguez Aragon, qui est la meilleure, je disais, non, parce que j'irai à la leçon, elle m'a dit, tu ne seras rien, continue dans le chœur. Et je ne voulais pas. Et finalement, je suis allée au conservatoire et j'ai fait la matricule.
Vous êtes inscrite?
Oui. Et juste à la première leçon, que j'ai tremblé comme tout. J'ai tremblé tout parce que je pensais qu'elle allait me dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas une voix. Alors le premier jour, elle me dit, qu'est-ce que tu sais chanter? Je dis, moi rien, des chansons populaires. Non, mais tu ne chantais pas, tu ne connais rien d'une opéra. Et je dis, non, quelquefois je chante avec mon papa Tosca, mais je ne sais pas, je ne la connais pas. Et il m'a dit, tiens cette partition, elle avait une partition de Les Noces de Figaro, et chantez-moi voi que ça pète, même si c'est seulement avec le solfège, sans les paroles. Et je la chantais. Alors elle m'a regardé, parce que vraiment, musicien comme moi, il n'avait pas dans la classe. Elle m'a regardé. Et comme elle m'a regardé, j'ai tremblé encore plus. Elle m'a dit, toi, tu vas faire quelque chose. J'ai appris l'air, oui, que ça pète, et au del mio dolce ardor de Gluck pour la prochaine leçon. Et elle s'est mise à pleurer. Mon professeur, il m'a dit, tu vas être une grande chanteuse. Je ne le croyais pas. Je n'ai jamais cru. Et c'est pour ça que j'ai continué. Parce que je ne croyais pas en moi. Et alors, on a travaillé. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait travailler? Il m'a fait travailler pendant un an les duettos de Les Noces de Figaro avec Figaro, Rosina et Figaro. Il m'a dit, le jour que tu chanteras ces duettos, tu vas chanter tous les Rossini. Comme ça, jour par jour. Elle était formidable. Formidable, elle m'a pris tout, dans les chants tout. Et naturellement, elle était très musicienne, elle adorait que j'étais musicienne aussi. Parce qu'elle me donnait... Bon, j'ai commencé à faire... C'est très long, ma vie. Et très intense pour vous raconter tout. Mais pour me gagner un peu la vie, j'ai fait des disques dans le chœur, des zarzuelas. Et elle me payait, naturellement, et comme ça, je pouvais me payer les pianistes. Je pouvais me payer les professeurs d'allemand, les professeurs d'italien, parce que ça, on l'avait pas au conservatoire. Mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Elle ne m'a pris jamais une pesseta, parce que à ce temps-là, il n'y avait pas d'euros. Mais il m'a fait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a dit, quand tu chanteras ce duetto, tu vas chanter tous les plus difficiles du monde. Et c'était comme ça. Donne, 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 a momenti per parlarmi qui sarà una confidenza zitto, zitto, mi verrà
a appris aussi Lola à respirer, Teresa Berganza.
Ah, et comment? Je me souviens les premiers jours que j'allais à la leçon et je suis rentrée à la maison, je me suis mis par terre et dit à ma maman, maman, où sont les dictionnaires? Ces dictionnaires qu'il y a papa qui sont très grands et qui sont très, comment est-ce qu'on dit, pesantes?
Lourds.
Lourds, qui sont très lourds. Et pourquoi tu veux ça? Parce que je dois les mettre ici, dans le ventre, et je dois les voir monter et descendre. Et ma maman me dit, tu vas devenir folle, hija, ma fille, tu vas devenir folle avec cette étude de chant. Alors je me mettais là, et je voyais les énormes dictionnaires monter et descendre. Et comme ça j'ai appris, parce qu'elle m'a dit, jusque que tu ne sais pas bien respirer, tu ne pourras pas chanter. Ah, elle était géniale.
Pour ça, Teresa Berganza, il fallait beaucoup de patience et je crois que vos parents vous appelaient la belle impatiente ou la grande impatiente.
Je suis la divine, mon père, la divine impatiente, parce que je ne pouvais pas rester dans une assise plus de 5 minutes. Alors papa, naturellement, comme on m'aimait beaucoup, au lieu de m'appeler l'impatiente, il m'appelait la divine impatiente. Il était toujours, et je suis toujours impatient, et ça, on ne change pas.
Hop, 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 hop
Le chat matelot, un extrait du cycle de Moussorgski, La chambre d'enfant par Teresa Berganza et Ricardo Recuero. C'est la fin du deuxième épisode de ces grands entretiens avec Teresa Berganza. Réalisation Marie Groux, prise de son Marcos Daras, mixage Éric Boisset, attaché de production Marion Guillemet. Demain, dès 13h, troisième épisode de ce portrait. Grands entretiens qui sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.